écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de recevoir le journal du 22 mars 2022. La Journée mondiale de l'eau est célébrée le 22 mars de chaque année, occasion de jeter un regard vers ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Notre correspondant de Balayara nous amène à Assara où les femmes ont des difficultés d'approvisionnement en eau. Libération ce matin du lanceur d'alerte Ahmed Bello Issoufou, arrêté pour un post sur le viol présumé d'une mineure à Bonkoukou. Son avocat estime que le droit a été dit. En partie magazine, nous parlerons de la préparation d'huile d'arachide enrichie à la vitamine A par Saoudé Garba, une habitante de la région de Maradi. Hawa Mamana au micro. Comme annoncé, le monde célèbre ce 22 mars la journée de l'eau avec pour thème les eaux souterraines, rendre visible l'invisible, une occasion de visiter le hameau d'Assara situé à 15 km à l'ouest de Balayara. Les femmes de ce hameau alertent les autorités sur leurs difficultés quotidiennes pour accéder à l'eau et abreuver leurs animaux. Les puits traditionnels datant de 1985 ont une profondeur de plus de 60 mètres et le puisage se fait manuellement plusieurs fois par jour. Ces femmes lance un cri de cœur au micro de Seydi Abdoui Dintan.
Maintenant, c'est du puits que nous revenons. Des puits de 30 mètres et nous souffrons énormément. Parce que c'est à la main que nous puisons. 10 à 12 bidons. Et ce sont ces bidons-là que nous avons chargés sur ces charrettes. On souffre trop. Nous en puisons pour la consommation quotidienne. Faire la vaisselle et abreuver nos animaux. On fait ça matin et soir.
Ce puits-là a une profondeur de 30 mètres et c'est à la main que nous puisons l'eau. Nous souffrons avant d'avoir l'eau. Tu vas tirer jusqu'à ce que la peau de tes mains durcisse. Nous puisons 10 bidons, d'autres 12 bidons. Tu peux y venir 3 à 4 fois par jour. La distance peut atteindre 1 km ou plus. Qu'ils nous aident avec des fourrages. Ce n'est pas la même chose que la corde. Tirer sur la corde est très difficile.
Au Niger, la culture de contre-saison permet aux producteurs de produire des légumes et fruits en grande quantité. Cependant, les producteurs ont un problème d'écoulement de leurs produits maraîchers sur les marchés de la place. Pour faire face à cette situation, Hajara Umoru, habitante de Tanout, région du Zender, propose des techniques de conservation naturelle du chou. Elle explique le processus au micro de Zainabou Amadou.
Ce que vous voyez ici, c'est du chou. Ça, c'est le frais et là, c'est ce que j'ai fait sécher. J'en achète chaque samedi et quand on me l'amène, je lave d'abord, ensuite je l'émiette et je l'étale sur une natte. Je ne l'étale pas au soleil, mais plutôt sous ces hangars. Je l'étale sur une natte et je le fais sécher dessus pour qu'il sèche très bien tout en gardant sa couleur verte. On peut l'utiliser à la rupture, par exemple, avec cette période du jeûne qui approche. Il faut d'abord le faire tremper dans l'eau pendant au moins 30 minutes. Ensuite, le faire bouillir jusqu'à la cuisson totale. Il peut être accompagné de riz ou de couscous. Ça fait au moins 3 ans que je fais ce travail. Et je ne suis pas la seule. Il y a d'autres femmes qui font ce même boulot que moi. Et ça nous va très bien. Surtout qu'à cette période où les feuilles comestibles telles que le moringa coûtent cher. Mais pour ce qui est du chou, ça va beaucoup mieux. C'est accessible à toutes les bourses.
Le lanceur d'alerte Ahmed Bello Issoufou, poursuivi sur plainte en diffamation déposée par un responsable des forces de défense et de sécurité de Filengue au sujet d'un cas présumé de viol sur mineur à Bonkoukou dans le département de Filengue, a été libéré ce matin par le juge du tribunal de grande instance de Niamey pour fait non constitué. Pour son avocat, le droit a tout simplement été dit. Maître Ahmed Bakimba Touré au micro de Mokhtar Amadou.
Le tribunal a dit le droit en précisant que les faits ne sont pas établis, ni d'injures, ni de diffamation ou de production, diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. Au cours des débats, le tribunal s'est rendu compte qu'en réalité, mon client, il n'a fait que dénoncer des faits de viol et c'est dans son droit en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur de la société civile qui œuvre dans le domaine de la défense des droits humains. La seule chose peut-être qu'il faut préciser, c'est de dire que de telles procédures ne doivent pas exister dans des États qui se disent état de droit, où dans le code pénal, il est précisé que le fait de ne pas dénoncer un crime est une infraction, et que tu dénonces une infraction, qu'on te poursuive, je pense que ça doit tous nous interpeller et que le ministère public doit dorénavant se raviser avant de poursuivre toute personne qui dénonce des faits de crime ou infractionnels.
Début ce matin à Niamey d'une formation sur les stratégies techniques et plans de communication au profit des institutions intervenant dans le secteur de la sécurité. Cette rencontre de deux jours est organisée par le Centre de Genève pour la gouvernance dans le secteur de la sécurité DECAF. Anne Bennett, chef de la division Afrique subsaharienne à DECAF, explique le motif de la rencontre au micro de Asumana China.
On vise l'importance d'un engagement avec les médias pour que la population puisse avoir accès à l'information pour être au courant de la situation de sécurité dans le pays. Il y a plusieurs études qui ont démontré que sur les questions sécuritaires, ça reste parfois très opaque. Soit les institutions sur l'idée de secret défense, ils ne fournissent pas les informations, ou bien les journalistes parfois, ils n'ont pas la connaissance justement de faire des reportages là-dessus. Et qu'il y avait très peu d'informations à travers les médias. Il y a aussi le phénomène de fake news et des fausses informations. Et je pense qu'il y a une demande de plus en plus importante, d'une fois de la part des institutions étatiques, mais aussi des médias, de comment faire face à ces fausses informations. Donc c'est autant plus important qu'il y a une information fiable que les institutions peuvent fournir. Parce que dans l'absence d'informations, c'est sûr qu'il y a des rumeurs, il y a parfois du propagande ou des fausses informations.
L'ancien Premier ministre du Niger, Brigitte Raffini, également secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariennes, SENSAD, a été reçue hier en audience par le président de la République, Mohamed Bazoum, selon le Sahel de ce mardi 22 mars. Selon la même source, il est venu remercier le président grâce à qui sa candidature a été transmise et acceptée par les autres chefs d'État de la SENSAD pour achever le mandat du Niger en tant que secrétaire exécutif de l'organisation sous-régionale. Le centre de santé intégré de Matamé enregistre depuis une semaine des cas de rougeole. À la date du 21 mars 2022, 11 cas ont été enregistrés. Cette maladie contagieuse concerne surtout les enfants non ou peu vaccinés dans le cadre des vaccinations de routine. Selon le responsable du CSI urbain de Matamé, la vaccination et la sensibilisation les aident à prévenir une épidémie. Magaji Mahamad Nassirou, responsable du CSI, est au micro de Habou Serki Saleh.
On a resserré 11 cas au CSI urbain, donc aucun décès. Et les autres là, actuellement, il n'y a que 2 qui sont sous traitement, les autres sont sortis guéris. En tout cas, majorité des cas là, ce sont des enfants non complètement vaccinés. Tantôt, d'autres ont reçu leur première dose et ils ne se sont pas retournés pour leur deuxième dose. D'autres, ils n'ont même pas reçu la première dose. Par rapport aux mesures préventives, on a entrepris beaucoup de choses, dont des séances de vaccination, surtout au niveau des fixes. Comme majorité des cas là, ce sont des cas dépistés, diagnostiqués ici à Matamé. Et on a impliqué les acteurs communautaires là dans les domaines de la sensibilisation, et surtout les mères d'enfants, à amener les enfants à la vaccination des routines.
À Niamey, on constate souvent des malades mentaux qui errent dans les rues, une situation qui pourrait exposer les passants à des risques d'agression. Selon professeur Douma Maïga-Jibo, médecin-chef du service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey, la prise en charge de ces malades est possible à condition qu'ils soient admis à temps. Il explique au micro de Rahilatou Soumana.
Nous sommes des hospitaliers, nos attributions se limitent à l'hôpital. Par contre, quelquefois, les autorités décide d'apporter une aide à ces personnes malades en les ramenant au service de psychiatrie parce que le malade, dans son incohérence, a quitté sa ville, son village et s'est retrouvé à Niamey dans la rue. Quand on l'amène directement, on le prend en charge avec les assistants sociaux, les psychologues. Pour les malades qui portent des armes blanches, qui sont dangereux, c'est les sapeurs-pompiers ou encore les policiers qui sont appelés par les communautés qui viennent sécuriser non seulement la communauté, mais sécuriser le malade et puis l'amener au service de psychiatrie où il est pris en charge en fonction des moyens qui sont disponibles. Et quand les moyens ne sont pas disponibles, quelquefois quand on demande à l'hôpital qu'il y a un fonds social, et le plus souvent l'hôpital répond favorablement pour faire face à l'urgence, et quelquefois quand on trouve sa famille, il est soulagé de ces symptômes-là.
Les ouvriers journaliers de la commune de Tiro dans la région d'Agadez étaient dans les rues hier pour dénoncer leurs conditions de recrutement et de paiement. Selon eux, il n'existe aucun contrat de travail formel qui les lie à leur patron. Tout se fait de manière opaque. Par cette marche, ils veulent attirer l'attention des autorités sur leurs conditions d'existence. Amadou Alassane, porte-parole des ouvriers, au micro d'Ahmed Félan.
C'est une société étatique. Les travailleurs n'ont aucune sécurité. Ils ne connaissent pas leur statut. Ils sont payés à 30 000 francs le mois. Ça n'atteint même pas le SMIC. À plus forte raison, parler de la grille salariale. C'est pour cela que nous avons jugé utile de nous unir pour défendre nos droits. Au lieu d'aller braquer, voler ou faire autre chose et finir en prison, nous avons préféré travailler pour vivre à la sueur de nos fronts. Mais nous sommes ici sans aucune base légale. Quand tu vas engager une personne, tu dois passer par l'inspection du travail. Mais ils ont recruté les gens de l'informel. Ils tombent malades et ils ne les prennent pas en charge. Tous ceux qui travaillent ici sont payés à 30 000 francs le mois et on n'est pas déclaré à la caisse. Ce n'est pas normal.
Dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a quitté Niamey hier en direction de la Mauritanie pour deux matchs amicaux. Abdrazak Rafa, président des supporters du MENA, salue l'initiative. Il est au micro de Salamatou Kadri.
Le MENA a quitté hier pour la Mauritanie, précisément à Nouakchott, où ils vont livrer des matchs amicaux. C'est un tournoi organisé par la Fédération Mauritanienne de football avec le Cap-Vert, le Mozambique, bien évidemment la Mauritanie. C'est un tournoi qui va durer une semaine, qui va nous permettre sans doute vraiment de nous préparer pour la prochaine campagne de la Coupe d'Afrique 2023 qui va se dérouler, Inch'Allah, en terre ivoirienne. Nous saluons quand même cette initiative parce que nous avons le devoir de nous relancer par rapport à la qualification de notre 11 national. Depuis 2013, on ne s'est plus qualifié. On a eu deux qualification de suite. Cavani a fait une bonne sélection. Il a su quand même rajeunir l'équipe avec beaucoup de joueurs. Il a su également donc amener un portier donc de l'intérieur du pays, comme pour dire que vraiment donc la pépite au niveau de l'intérieur du pays commence vraiment à donner du fruit. Et nous pensons que vraiment ce tournoi sera un bon tournoi.
La partie magazine de ce journal, Saoudé Garba, produit de l'huile d'arachide enrichie à la vitamine A. Grâce à cette innovation, Saoudé, au nom de son groupement Kodanaka, a remporté le 3 mars 2022 le prix de la foire de l'agriculture et de l'élevage Sahel 2022. Comment se fait la préparation? Saoudé Garba répond au micro de Mohamed Maman.
Dans un premier temps, avant même de mettre de la vitamine A, il faudrait respecter les règles d'hygiène. Il faut d'abord trouver la bonne qualité d'arachide, bien préparer ça, ensuite l'amener au moulin qui va se charger de la presser et d'enlever toutes les autres saletés. Ensuite, la deuxième machine s'occupe de séparer l'huile et les tourteaux, bien arranger chacun de son côté. Et il y a une troisième machine qui s'occupe de nettoyer encore plus l'huile. Et il y a une autre machine encore qu'on utilise pour mélanger l'huile et la vitamine A.
Comment se fait l'ajout de la vitamine A à l'huile et à quelle dose?
C'est un bol de vitamine A pour chaque 300 litres d'huile. Quand on verse la vitamine de l'huile, la machine fait tourner le mélange pendant au moins une heure. Et après, il y a un bouton qu'on presse pour transférer l'huile dans des bidons neufs. Ça ne se fait pas à la main. Nous avons des bidons de 25 litres, des bidons de 5 litres et le bidon d'un litre. Et il y a deux femmes qui s'occupent de cette étape. Elles ont des combinaisons spéciales pour ça. Ce n'est pas n'importe qui peut se joindre à cette étape-là. Après, nous les plaçons sur le tableau. Nous avons fabriqué cette sorte d'huile enrichie à la vitamine A pour pouvoir lutter contre la malnutrition, pour que, plaise à Dieu, nos enfants grandissent sains et en bonne santé.
Quel bénéfice tirez-vous de cette production d'huile enrichie?
Dieu merci, on s'en sort bien, puisque les 55% de ce que nous gagnons représentent nos investissements et les 45% restants sont des bénéfices que nous réalisons. Et avec ça, nous subvenons à nos besoins, à ceux de nos familles et nous contribuons aussi au réseau Kodanaka. C'est un réseau constitué de femmes uniquement. Nous sommes au nombre de 152. Nous sommes 10 dans le comité de production d'huile, puisqu'on ne peut pas inclure toutes les 152 femmes du réseau.
D'où est-ce que vous vous procurez la matière première?
C'est à travers le programme conjoint que nous avons commencé. Ils nous ont apporté la bonne qualité des semences d'arachide, celle qui a été bien analysée, testée et approuvée et qui s'est produite rapidement. Et nous l'avons distribué aux membres du réseau qui la produisent et la distribuent partout dans la ville. Ce sont ces femmes-là, nos premiers fournisseurs. C'est avec elles qu'on achète d'abord et ensuite nous achetons auprès des autres vendeurs de la ville.
« C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.